Salut et bienvenue dans Bol, votre émission littéraire sur Radioactive 101.9 FM et sur le www.radio-active.com. Bol, c'est B-O-L, bande originale de livres. Je vous parle de livres que je mets en musique en fonction des ressentis que j'ai pu avoir en les lisant. Nous sommes ensemble pour 30 minutes, c'est Patrick pour vous servir et Bol, c'est parti. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Bol. Épisode de Bol consacré aujourd'hui à un livre que je n'avais pas prévu de chroniquer pour vous. Voilà, c'est un aléa du direct, un aléa du jour, parce que j'étais parti plutôt pour vous parler du livre L'Enfer du Bocal de Verena Hanf, paru aux éditions F de Ville. Alors Verena Hanf, si vous êtes des habitués de Radioactive et surtout de bande originale de livres, vous en avez déjà entendu parler. Il y a de cela, je dirais 2 ans, je crois, parce que j'avais parlé de son précédent roman, La fragilité des funambules, paru aux mêmes éditions F de Ville. Et j'avais pu la voir en interview, donc c'est avec plaisir que je vous aurais parlé de son Enfer du Bocal, qui est un super livre que j'ai vraiment beaucoup aimé et dont je vous parlerai la semaine prochaine avec très très grand plaisir. Et puis j'essaierai aussi d'avoir Verena au téléphone. Mais il se trouve que voilà, j'ai eu un énorme coup de cœur même pour un tout petit livre, pour une nouvelle. Alors c'est assez rare que je parle de nouvelle. Là c'est une seule nouvelle, elle fait 56 pages, c'est vraiment très petit. Mais l'écriture de cet ouvrage m'a tellement chaviré, bouleversé d'une certaine façon, parce qu'on est là dans une littérature complètement folle, pour tout dire. Et je résiste pas à l'envie de vous en parler aujourd'hui. Alors c'est à chaud, hein, j'ai fini le livre ce matin même. Et voilà, je suis un petit peu en improvisation par rapport à celui-ci, parce que voilà, je suis encore sous le coup de l'émotion. Et c'est bien, je trouve aussi, d'y aller un petit peu comme ça, au feeling. Et du coup, bah, je vais vous parler de ce petit livre paru donc aux éditions L'Orpailleur, dont je vous parle régulièrement, vraiment maison de très très belle qualité littéraire. Ce roman, s'appelle La saison des épères. C'est écrit par Jean M. Matoul. Et ben voilà, juste avant de vous en parler, je passe un premier morceau de musique. Il s'agit de Moon Kido avec Thauman. Ça devrait sortir dans pas très très longtemps et c'est un groupe à vraiment suivre de près parce qu'ils ont une petite touche bien à eux qui est plutôt sympathique. Allez, je ne traîne pas, je vous passe ce morceau et on se retrouve juste après pour parler de La saison des épères. His own gun and prepares himself. vous êtes bien à l'écoute de Bol sur Radioactive 101.9 FM et sur le www.radio-active.com. Alors pourquoi ce titre de Moon Kido ? Eh bien, tout simplement parce qu'il ressemble beaucoup à l'écriture de ce livre, c'est-à-dire une écriture progressive, mais toujours sur les mêmes bases, sur les mêmes schémas répétitifs et sur cette espèce de crescendo qui n'arrête pas d'envahir les oreilles avec Moon Kido et les yeux avec cette saison des épères. Et pourquoi aussi ce titre ? Eh bien parce qu'on y retrouve des instruments acoustiques et des instruments électriques qui représentent pour moi dans ce livre justement ce paysage qui nous est amené de découvrir au fur et à mesure des pages qu'on tourne, c'est-à-dire qu'on commence dans la forêt, puis on passe dans le désert, on se retrouve dans une cité avant de retourner dans la forêt. Mais je trouve que ça suit un petit peu la courbe de ce très beau titre de Moon Kido, donc il va sortir son album très bientôt et je le conseille fortement parce qu'il est vraiment très très bien. Plein de particularités à dire sur ce livre, tellement que je ne sais pas si j'aurai vraiment tout le temps pour vous en parler comme il se doit. La première de ces particularités, qui me fait rebondir sur vraiment une pensée beaucoup plus vaste, c'est que ce livre il a été écrit entre février 1991 et janvier 2014. Alors voilà, c'est assez énorme, plus de 10 ans pour écrire 56 pages. Vous me direz, ah oui, ce Jean M. Matoul n'est pas très productif. Eh bien moi j'aurais envie de répondre que peut-être ce serait bien que certains auteurs écrivent moins et mieux, ou qui prennent le temps pour développer des histoires qui ont vraiment quelque chose à part, comme peut l'avoir la saison des épères, parce que vraiment on est dans une espèce d'écriture très métaphorique, très imagée, très poétique à sa manière. C'est une écriture, comment dirais-je, une écriture de pourriture, de vie, de douleur, de beauté, d'amour, de filiation, de tellement de choses que c'est impossible pour moi quasiment de vous dire de quoi parle ce petit livre de 56 pages, je le répète. En revanche, on est vraiment en tant que lecteur saisi dès la première page parce que justement on entre de plein pied dans un univers totalement inconnu, totalement improbable, quelque chose d'un petit peu mystique qui ramène presque au divin, parce que il y a, moi c'est la sensation qui m'a envahi au bout de quelques pages, et notamment avec la naissance d'un enfant, c'est justement cet avènement de peut-être, peut-on faire un comparatif, une comparaison plus exactement avec peut-être la Bible et l'arrivée de Jésus. Ben là, c'est un petit peu la même chose. On a une espèce de, je sais pas si on peut dire un dieu, mais en tout cas un personnage charismatique qui naît de l'enfantement de la terre et de l'eau, d'on ne sait pas trop s'il s'agit d'un être vivant, un être humain vivant, ou d'un animal qui se serait accouplé avec un autre animal, ou si c'est un être humain qui s'est accouplé avec un autre être humain. Il y a beaucoup de figures comme la louve qui revient très régulièrement, des figures un petit peu, des totems qui apparaissent au fur et à mesure des livres, des pages qu'on tourne, et on se retrouve toujours avec le même personnage décliné en version père, en version fils, en version petit-fils. Il s'agit de Karl. Alors, Karl, c'est une entité, dirons-nous, qui vit dans la forêt, qui se nourrit de rien, qui ne se lave pas, qui semble avoir échappé à tout monde concret, à tout monde urbain, à tout ce monde qui fait le nôtre. Ce n'est pas simplement un ermite, c'est vraiment quelqu'un qui vit complètement en marge de tout, qui ne connaît pas justement tout ce qui se passe autour de lui. Et il se trouve que cet homme, ou cette entité, j'ai envie de dire homme, mais je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'un homme, voilà, réussit à enfanter en tuant a priori une autre entité, un autre homme, un paysan. Il s'accouple avec sa femme qui ne reconnaît pas qu'il s'agit là d'un imposteur. Il a donc Karl le jeune, il y a Karl le vieux, Karl le jeune, et plus tard, il y a Karl le nouveau-né. Voilà, c'est vraiment une écriture très très particulière, très viscérale, très puissante, très... Ouais, comme je disais tout à l'heure, métaphorique, une écriture qui dérange, parce qu'on ne sait justement pas sur quel pied danser, on n'a pas de sol stable sous nos pieds quand on lit ce livre. Il nous trimballe finalement sur un seul spectre émotionnel, très fluctuant, entre admiration pour cette langue qui est utilisée, pour cette narration très très particulière. On est mélangé entre cette admiration, le dégoût, parce que les personnages qu'il met en avant sont très flous, sont dénués de presque de conscience. Il s'agit vraiment de, je sais pas, c'est comme si c'était des êtres éthérés qui n'avaient pas de prise consciente avec le sol. C'est vraiment très très particulier, c'est vraiment quelque chose qui se ressent profondément. C'est pas de la poésie non plus, quoi qu'on peut y trouver beaucoup d'aspects poétiques. Et d'ailleurs, il y a des références à la poésie qu'on voudra saisir ou pas en le lisant. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment une écriture sensorielle, sensitive, sensuelle aussi. Sensuel, pas dans le sens érotique du terme, mais qui joue sur les sens, à la fois sur l'odorat, sur la vue, sur les ressentis du toucher. C'est vraiment quelque chose de très, très décrit, mais c'est assez paradoxal. C'est très décrit sans rentrer dans un tout descriptif où on sait parfaitement de quoi il ressent. On est dans une espèce de brouillard d'opacité qui, finalement, plutôt que de nous repousser, nous attire un petit peu comme un aimant et qui vraiment remue pas mal les tripes. Mais voilà, plutôt que de parler comme ça de ce livre et de son impalpable, je préfère vous passer un petit morceau de musique et de revenir justement à La saison des épères de Jean M. Matoul, paru chez Lorpailleur, en vous lisant quelques extraits dès le début, dès la première page de ce livre. Alors je vais vous passer un morceau de Do You Write, ça s'appelle Céleste Doumor. Ben voilà, c'est parti. toujours à l'écoute de Radioactive, à l'écoute de Bol sur votre radio préférée, sur le 101.9 FM ou sur le www.radio-active.com. Et comme prévu, comme promis, je vous lis un extrait de La saison des épères de Jean M. Matoul, paru aux éditions L'Orpailleur. D'ailleurs, si jamais d'aventure vous aviez un coup de cœur pour cette chronique et pour ce que j'ai pu dire du livre et des extraits qui vont suivre, prière, si vous pouvez, de commander directement chez L'Orpailleur, c'est facilement trouvable sur Internet ou sur même Facebook, parce que voilà, c'est une petite structure qui a besoin de fonds, et c'est toujours mieux quand on peut acheter directement les livres chez l'éditeur plutôt que même chez le libraire, parce que voilà, il y a moins d'intermédiaires, et forcément, l'argent rentre plus facilement dans les poches des petite structure. Donc je vous lis le début finalement de cette histoire de La saison des épères. On est page 11, c'est le tout début de l'histoire et ça commence assez rapidement. Ainsi gît Karl, le ventre enflé, l'œil bleuté. Longtemps il a cru qu'il suffisait d'avoir le ventre rond et le regard absent pour vivre seul et mourir heureux. Longtemps il a rêvé. Les dieux n'ont cependant pas souhaité sa perte. Sa voix n'a pas parté bien loin. Karl. Il n'a pas de glande sudoripare. Il ne pue pas mais gonfle. Il en est incapable. Plusieurs mues l'en séparent. Il n'est ni médecin ni apothicaire. Karl vit au jour le jour. Karl boit. Il gonfle mais n'a pas de ventre. Karl souhaite la mort de ses ennemis. Karl, ses reins, ses os, ses humeurs, son être inachevé. Karl habite une maison tapissée de peaux d'iguane, d'arêtes de poisson, de papier huilé et de soie. Chaque matin, il en orne les murs du produit de sa chasse et de sa pêche. Ses trophées puent rapidement. Il lui faut alors s'en débarrasser, en changer, et cet acte l'emplit d'un embarras toujours croissant. Karl vit à la lisière d'une forêt de très grands arbres. Leurs ombres portent jusqu'à sa masure, pavillon informe. Leurs voix mêlées portent bien plus loin encore. Leur voix couvre les plaintes de Karl. Dans son délire, Karl, l'écorné, prend les cieux à témoin. Il leur raconte son enfance, celle qu'il prétend avoir connue. Cette enfance qui repose désormais sous les salissures, les maux de mai, les chures de mouches, parmi les baraques. Karl raconte, malgré tout, ses livres d'images, ses puzzles, l'odeur des figues l'été, celle des marrons grillés l'hiver, les reptiles qui vivent vieux, le nid sous la pierre, le cri du nouveau-né dans la chambre désertée. Ainsi disserte l'écorné. Ainsi se languit-il d'un paradis illusoire. Karl est laid et puissant. Sa méchanceté est redoutée. Karl cloue les corneilles aux portes des granges et cherche désespérément un moyen d'assécher l'étang. Les lourdes carpes le haïssent pour cela. Toutes craignent la vibration de son pas. Les lourds bisons laineux le craignent tout autant et évitent autant que possible de croiser sa route. Le bison lui donne pourtant tout ce dont il a besoin. Sans lui, il ne serait rien. Sa maison est tapissée de fragments de sa peau. Sa dépouille constitue son lit, sa couverture, ses vêtements même. Il est dans la nuit le battement du tambour, vivant et sain. Sa peau devient gourde. Sa chair lui donne sa force quotidienne, devient chair de sa chair, nourrit ses étrons. Rien de lui n'est perdu. Son estomac distendu, une pierre chauffée au rouge à l'intérieur, lui procure le chaudron. Ses cornes, des cuillères. Ses os, des couteaux, ainsi que des haleines et des aiguilles. Ses côtes, des traîneaux. Ses tendons, les cordes de son arc et le fil. Ses sabots, des hochets pour des enfants à venir. Son crâne puissant, un autel sacré. Sans le bison, jamais Karl ne survivrait. Le haï évite ses semblables. Il est ainsi fréquent qu'il entreprenne un long détour afin d'éviter la ferme du laboureur, son plus proche voisin. Celui-ci habite au-delà des collines et plus loin encore. Ses enfants sont nombreux et beaux. Sa femme est fidèle. Le haï, le jalouse et le craint tout à la fois. Son membre désire la femme du laboureur. Son membre est tumeur. Le relief bien particulier aux endroits de son corps, sa doublure, ses chutes et ses manquements. Tous ces phénomènes, ces histoires épuisantes à raconter, tellement longues à entendre. des traces humides aux endroits de sa taille, là où la chaleur est forte. Ses urines, ses pertes, et ce sont là toutes ces archives terrassées qui se complètent. Mutilé, il acquiert la pleine maîtrise de ses organes. Souvent, Karl suit le cours de la rivière, frappant le sol de son bâton. Il ne s'y baigne cependant jamais. Karl craint maladivement le froid et ne quitte jamais ses vêtements, même pour un court instant. Karl craint le froid et même au cœur de l'été s'habille chaudement. Son manteau est souillé de graisse animale. Le bas de son pantalon est taché de sucre végétal. Karl empeste l'urine et les odeurs fortes. Jadis, Karl eut un chien dont l'histoire n'a pas retenu le nom. C'était un animal efflanqué, sombre et vicieux, tout aussi cruel que son maître qu'il suivait comme son ombre, ne le laissant au grand jamais distraire par la fuite d'un lapereau ou l'envol d'une poule d'eau. Ce chien sera longtemps le seul ami de Karl. Tous deux se ressemblaient d'ailleurs beaucoup. Karl le pendra un jour de profonde tristesse. C'est précisément ce jour qu'il décidera de prendre femme. Karl se montre exigeant quant au choix de sa compagne. Il commence par la sculpter dans un bloc de glaise. Ses doigts sont habiles et se meuvent avec aisance. La terre sèche bien trop rapidement au soleil et le corps entier de sa promise se flétrit inexorablement. Karl s'empare alors de son couteau et s'attaque au trône d'un arbre mort. Il sculpte les jambes longues et effilées, le ventre plat, la taille fine, les seins lourds et laiteux. Le visage lui prend un temps fou. Il hésite aussi ainsi longuement sur le choix des pommettes. Le tracé des lèvres ne lui prend par contre qu'un court instant. Au moyen de trois petits clous, il fixe enfin sur le crâne soigneusement poli une chevelure faite d'algues sèches et s'estime satisfait de son travail. Et bien voilà pour l'extrait de La saison des épères de Jean M. Matoul, paru chez Laure Payeur. Livre vraiment coup de cœur, très fort, très puissant, avec une fin, comme beaucoup de nouvelles, qui nous laissent vraiment sur une impression à la fois d'inachevé et de totalement achevé, nous laissant avec des questions, mais également avec ses réponses. Bref, voilà, moi j'ai eu un énorme coup de cœur, je sais que c'est pas forcément une littérature facile qui peut ne pas plaire à tout le monde. Et justement, c'est bien ce genre de littérature qui ne plaît pas à tout le monde, parce que si ça plaisait à tout le monde, ça serait peut-être moins intéressant. Bon allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bol. Allez, salut !